Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Ça fait plaisir de vous voir. La dernière fois que j'ai apporté le message, on avait vu l'histoire du fils prodigue. Et puis dans cette histoire, on a vu deux frères. L'aîné était fidèle et travaillait dur pour son père. Et le second est parti dilapider son héritage dans la débauche. Pourtant, lorsqu'il revient repentant, son père l'accueille les bras ouverts et lui organise une fête. Alors le fils aîné est en colère parce que lui, il a tout fait pour ce qu'on lui demande. Et pourtant, on ne lui organise aucune fête. Mais son père lui dit qu'il pouvait en organiser une sans problème. Il avait tout à sa disposition. Cela nous montre que l'un des frères pensait devoir faire beaucoup de bonnes choses pour recevoir un cadeau de son père, tandis que l'autre s'est simplement repenti et a demandé à ce que son père lui fasse grâce, et cela a suffi. Les deux avaient droit à la fête. Et on ne s'est pas consulté avec Raphaëlle, donc si vous voulez une preuve que Dieu parle encore aujourd'hui, je vais parler de justification. Il a parlé qu'on était justifiés. Alors, voilà. Donc cette histoire qu'on avait vue la dernière fois illustre bien la justification. Je vous donne d'abord une définition que j'ai prise dans le Larousse. Donc justifier, c'est action de justifier quelqu'un ou de se justifier soi-même. Défense, ouvrage qui vise à la justification d'un condamné politique. Ou encore, action de produire des arguments qui établissent la légitimité de quelque chose. Et je vous donne encore une autre, pas vraiment une définition, mais de ce que je dis à un pasteur et un théologien, J.M. Nicole, que je trouvais très intéressant. Contrairement à ce que l'étymologie suggérerait, justifier ne veut pas dire rendre juste, mais déclarer juste. Il y a une petite nuance. Un accusé qui est justifié par un tribunal n'est pas plus juste après qu'avant. Mais avant cela, des soupçons pesaient sur lui. Après cela, son innocence est reconnue. À la limite, un coupable peut être justifié dans un procès, vous êtes d'accord, et un juste peut être condamné. À votre avis, sommes-nous justifiés par la foi, la grâce ou par les œuvres ? Petit sondage, j'aurais pu mettre un sondage par téléphone, j'aurais vu le graphique. Alors, peut-être vous me dites la foi suffit, car nous sommes sous la grâce. Jésus a accompli la loi, et maintenant nous sommes libres. Et peut-être que vous me citeriez Galates 2,16. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Bien, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Tout est grâce et nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous glorifier de notre salut. Quelle grâce de n'avoir aucun effort à fournir pour obtenir la vie éternelle. Jésus, il a tout laissé, là où il était dans le paradis. Il est venu sur terre. Il a souffert à notre place, en portant toutes nos fautes, tous nos péchés. Il est mort alors que c'est ce que nous méritions. Il a vaincu la mort et cette victoire est valable pour nous aussi. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre notre foi en lui et en son œuvre. Et ce n'est pas seulement valable pour la génération qui a connu Jésus, qui a vécu avec Jésus, mais aussi pour nous, près de 2000 ans après. C'est donc la foi en Jésus et en son œuvre qui nous sauve encore aujourd'hui. Mais d'autres me diraient peut-être qu'un chrétien doit faire telle ou telle chose et n'a pas le droit de faire telle ou telle autre chose. Nous avons également l'Ancien Testament dans notre Bible, et c'est toujours valable. Eh bien oui, nous ne devons pas tuer, nous ne devons pas mentir, ne pas commettre d'adultère, etc. Tout ça est bien connu. Et vous me citeriez probablement chaque 2, 14 à 19. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne démontre pas par ses actes ? Une telle foi peut-elle le sauver ? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger, et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. C'est fort quand même, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un la foi, l'autre ses actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? C'est bien, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. J'ai entendu un amen. Quelqu'un est avec moi. Donc il faut donner, il faut aider, il faut travailler, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut aller à l'église, il faut. Et il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas juger, il ne faut pas pécher, il ne faut pas travailler le dimanche, il ne faut pas s'habiller de telle ou telle manière, il ne faut pas. Les 10 commandements sont encore actuels aujourd'hui et il faut les appliquer, sinon c'est l'anarchie. On est d'accord. Eh bien, moi je vous dirais qu'il y a un juste équilibre, parce que vous avez tous les deux raison, les deux camps. Eh bien, je vous dirais que vous avez tous les deux raison, et je vous citerai Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il y a la grâce et la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il y a les deux dedans. Nous voyons dans ce passage qu'il y a la grâce et les œuvres bonnes à accomplir. S'il n'y avait que les œuvres, nous pourrions nous glorifier parce que c'est ce que nous faisons et ne faisons pas qui permet d'entrer dans la présence de Dieu. Et nous n'aurions donc pas besoin de Dieu. Mais s'il n'y a pas la grâce, on ne parviendrait jamais au salut, car nous n'arriverons jamais à accomplir toute la loi. S'il n'y avait que la grâce, il nous suffirait de croire, et tout le reste de notre vie, nous pourrions vivre comme bon nous semble. Mais sans les œuvres, qu'est-ce qui changerait dans ce monde ? Où serait notre sel et notre lumière ? Mais il ne s'agit pas seulement de faire de bonnes œuvres pour Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Faire les œuvres, oui, mais celles que Dieu veut. Celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus est notre sauveur, c'est certain, et nous sommes reconnaissants pour ça, non ? Mais est-il aussi le Seigneur de notre vie ? Est-il notre Dieu ? Nous souhaitons tous être sauvés de la mort éternelle, de la séparation éternelle avec Dieu. Mais sommes-nous tous prêts à nous soumettre à Dieu ? À faire tout ce qu'il nous demande de faire, pour la durée qu'il nous demande de le faire, avec qui il veut que nous le fassions et dans le lieu où il veut que nous le fassions. Sommes-nous prêts à signer un contrat avec lui ? Ce n'est pas un contrat qui contient des lignes, petits caractères qu'on ne voit pas parce qu'il y a un petit astérix puis c'est tout en bas, mais ce n'est pas non plus un contrat où on sait tout ce qu'on va faire et tout ce qu'il va faire dans notre vie. C'est une feuille blanche. Il n'y a qu'une petite ligne tout en bas de la page et nous pouvons, si nous voulons, y mettre notre signature. Et Dieu remplit ce contrat au fur et à mesure de la vie, que la vie avance. Petit à petit, il y a inscrit ce qu'il attend de nous et petit à petit, nous voyons ce qu'il nous donne. C'est même plus qu'un contrat, c'est une alliance. Une fois conclue, elle tiendra toujours, il tiendra toujours ce qu'il a dit. Et nous devons nous y tenir aussi. Mais la grâce fait que, si nous ne tenons pas nos promesses, nous pouvons lui demander pardon et reprendre la route là où nous l'avions laissée. Alors, sommes-nous prêts à signer cette feuille ? Je vous laisse réfléchir. Dans l'une des entreprises où j'ai travaillé, le patron et son adjoint étaient vraiment durs avec moi, et avec toute l'équipe d'ailleurs. Le patron, il nous mettrait la pression constamment parce que c'était sa manière à lui de pousser les employés à atteindre l'excellence. Son adjoint, lui, il ne voulait pas que je travaille chez eux en tant que cadre. Il a alors utilisé diverses astuces pour toujours avoir quelque chose à me reprocher. Il est même allé jusqu'à défaire le travail que j'avais délégué à mon équipe et qu'ils avaient accompli pour me dire que ce n'était pas fait et que ça n'allait pas du tout. Puisqu'il m'avait demandé de le faire faire. Je n'avais pas eu le temps de contrôler, il avait déjà tout défait entre-temps. Et nous avons mis du temps à découvrir cette stratégie. Ensuite, il ne l'a plus refait, bien sûr. Mais ce n'était qu'un exemple. Durant mon temps là-bas, je racontais bien sûr à ma famille, à mes amis, ce que je vivais. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé « Mais pourquoi tu ne démissionnes pas ?» C'est vrai, on peut se poser la question, non ? Et bien, tout simplement, parce que je veux que Dieu soit non seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Croyez-moi, je lui avais demandé de partir. Un soir, dans ma chambre, je lui ai même supplié. Je lui ai dit « Mais maintenant, j'aimerais partir. Si tu me dis oui, demain, je donne ma lettre de démission. Même si je n'ai rien encore cherché comme autre travail et tout, j'en pouvais juste plus. » Mais j'ai su, au fond de moi, que la réponse était non. Il voulait que je persévère, il voulait que je reste. Mais j'en pouvais plus, moi, d'aller la boule au ventre au travail tous les matins et de pleurer tous les soirs en rentrant. Mais ce soir-là, j'avais la conviction que je devais encore rester. Et Dieu est bon, je l'ai vraiment senti présent dans mon travail. Je le sentais parfois presque à mes côtés. Et il était là, et même si c'était difficile. Et au bout de 3 ans et demi, j'ai eu le feu vert pour partir. Et là, je suis partie. Dieu veut plus qu'une simple foi. Il veut une foi en action. Dieu veut plus que de l'amour envers lui. Il veut un amour en action. Parfois, nous avons l'impression que la Bible se contredit. Mais la vie est faite d'équilibre. Le sport est bon pour la santé, et pourtant nous pouvons en être accros, et ce n'est plus bon. Manger, c'est nécessaire pour vivre, mais trop, c'est pas bon. Alors si la Bible contient la foi et les œuvres, pourquoi en enlever une et favoriser l'autre? Le risque de s'appuyer sur la foi uniquement, c'est le laxisme. C'est l'attitude de quelqu'un qui est excessivement indulgent, tolérant. « Ah non, c'est pas grave, Dieu me pardonnera de toute façon. Je peux faire ça. De toute façon, si vraiment c'était pas... Il peut toujours encore me pardonner. » Le risque de s'appuyer sur les œuvres uniquement, c'est le légalisme. Attachement excessif à la lettre de la loi. Il faut, tu dois, tu n'as pas le droit de. Il faut une vie faite de foi en ce que Jésus a fait à la croix et d'œuvres accomplies selon la volonté de Dieu. Les œuvres doivent découler de la foi et non l'inverse. Les œuvres doivent découler de la foi et non l'inverse. Je vous ai mis une petite... juste avant. J'ai mis une petite... ça s'est décalé, mais... Juste laxisme, légalisme, c'est les deux extrêmes et il faut un juste équilibre. Alors maintenant, j'ai 3 questions pour vous. Peut-être que tu connais l'histoire de Jésus et tu ne lui as pas encore donné ta vie. Eh bien, je t'invite à le faire aujourd'hui. Place ta foi dans le fait qu'il a porté tous tes péchés, tout comme il a porté les miens. Ou peut-être tu as la foi et tu as donné ta vie à Jésus, mais dans la pratique, tu n'arrives pas ou pas toujours à faire ce qu'il te demande. Aujourd'hui, tu peux lui demander de l'aide dans ce domaine et même prendre la décision de faire quelque chose qu'il t'a demandé de faire depuis un moment. Tu es plus dans un extrême que dans un équilibre entre foi et œuvre. Tu peux aujourd'hui demander à Dieu de trouver cet équilibre dans ta vie, de croire tout en agissant aussi et ou de faire des choses en te laissant porter par sa grâce aussi, de trouver cet équilibre. Alors j'aimerais vraiment qu'on prenne 2-3 minutes pour vraiment réfléchir à quel cas de figure on est le plus concerné et qu'on puisse prier ensemble. Vous pouvez même faire des petits groupes de 3 et puis prier les uns pour les autres sans forcément dire voilà ce qui me challenge, mais juste de prier, de s'encourager pour qu'on puisse tous avoir un équilibre entre la foi et les œuvres, qu'on puisse avoir la foi toujours dans ce que Jésus a fait, mais aussi qu'on puisse agir dans ce que Dieu nous demande, qu'on puisse entendre la voix de Dieu quand il nous dirige pour ce qu'il y a à faire, mais qu'on puisse aussi avoir la foi dans la grâce, qu'on puisse placer notre foi dans cette grâce qu'on a de lui demander pardon et il nous pardonne. Alors, je vous invite à faire des petits groupes de 3-4 maximum et puis de prendre un petit temps ensemble pour prier. Je rappelle juste les questions. Peut-être que tu connais l'histoire de Jésus et tu ne lui as pas encore donné ta vie. Je t'invite à le faire aujourd'hui. Place ta foi dans le fait qu'il a porté tous tes péchés, tout comme il a porté les miens. Où tu as la foi, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as encore de la peine à mettre en pratique ce qu'il te demande. Tu peux lui demander de l'aide dans ce domaine. Ou alors tu es plus dans un extrême entre la foi ou les œuvres et tu peux retrouver un équilibre en demandant à Dieu qu'il t'aide à être équilibré dans les deux. Juste pour rappeler les questions, ceux à la maison, vous pouvez participer bien sûr aussi et prier. Alors, je reprends votre attention. Ceux qui sont en train de prier encore, je vous laisse terminer de prier. Tous ceux qui sont en train de parler du beau temps, vous pouvez me regarder. Alors, votre attention s'il vous plaît. Je vous laisse finir de prier pour ceux qui prient encore. Voilà, donc moi je suis née plutôt dans une église, ou grandie plutôt dans une église qui était très très légaliste. Et puis ensuite, je suis arrivée ici et j'ai trouvé un équilibre. Et j'étais vraiment très... je ne suis pas tombée dans le laxisme ici, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai vu un peu... J'ai dû passer dans le côté plus soft, si je peux dire, moins légaliste. Et j'ai dû faire attention justement à ne pas aller dans l'autre extrême parce qu'on a envie de se libérer un peu de ce légalisme. Et c'est pour ça que je sais de quoi je parle et je vous encourage vraiment à... Je ne connais pas vos arrière-plans, mais à trouver cet équilibre, peu importe d'où on vient. Parce que c'est très important. C'est vrai que Dieu est saint. Il ne faut pas oublier ça. Il est trois fois saint. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi et aller vers lui. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et puis, on recommence. Il y a vraiment, c'est vraiment important de ne pas oublier qui est Dieu et qu'il est Dieu. Et il est unique dans cette position-là aussi. Et qu'on puisse vraiment faire ce qu'il nous demande de faire, qu'on puisse vraiment faire attention à nos paroles, à notre regard, à nos gestes, à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Mais il y a la grâce. On a un Dieu qui est bon et qui fait vraiment la grâce. Et c'est important justement de pouvoir se soumettre à Dieu. Et c'est important aussi que quand on chute, quand on manque la cible, eh ben on peut retourner vers lui et lui demander pardon. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. J'aurais juste prié pour la fin. Merci Père parce que tu es qui tu es. Merci parce que tu es un Dieu juste et bon. Merci parce que tu es Dieu, tu as créé l'univers. On n'arrive pas à se rendre compte de ta grandeur, de ta force, de ta majesté. Mais merci parce que tu es aussi un Dieu tellement proche de nous, qui nous parle, qui nous inspire, qui nous guide. Et merci parce que même si on peut se soumettre à tes plans, tes plans ils sont bons pour nous. Même dans les défis, tu es avec nous. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on traverse ce genre de choses, mais tu es avec nous. Et je te prie vraiment de nous aider à trouver cet équilibre entre grâce, foi et puis œuvre, qu'on puisse faire les bonnes œuvres que toi, tu as préparées d'avance pour nous. Là où tu nous as donné le potentiel, là, tu nous as donné toutes les ressources, qu'on puisse faire ces œuvres bonnes-là, mais qu'on puisse aussi rester dans la grâce, même quand on pêche. Merci parce que tu es miséricordieux. Merci parce qu'on peut venir vers toi et trouver la grâce, trouver le pardon pour continuer. Amen.